Merci d'être à l'écoute de Studio Kalangou. Il est 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français avec Raylette Soumana. Nous sommes lundi 11 octobre 2021. Le monde international commémore aujourd'hui la journée de la jeune fille axée sur le numérique. Pour plan international Niger, cela pourrait contribuer au maintien de la fille à l'école dans le pays. Vous suivrez la réaction des participants nigériens au nouveau sommet Afrique-France qui s'est tenu le 8 octobre à Montpellier, en France. Dans la partie magazine de cette édition, nous parlerons des différentes formes de succession au Niger selon les dispositions de la loi. Bonjour à tous. Le monde célèbre aujourd'hui la 10e journée internationale de la jeune fille avec pour thème « Génération numérique, notre génération ». Au Niger, selon la directrice du développement du programme et de l'influence à plan international Niger, le numérique peut contribuer fortement au maintien de la jeune fille à l'école. Madame Moussa Ramatou Kan, au micro de Rukayatou Abdourahman.
À travers le numérique, les enfants, les adultes, et particulièrement les filles dont on parle aujourd'hui, ont accès à de l'information utile, ont accès à des ressources qui vont leur permettre d'approfondir ce qu'elles auront appris à travers l'école, à travers des livres, etc. Ça leur permet d'avoir le monde à leur portée, tout simplement. Maintenant, le plus important, c'est d'exploiter le numérique à bon escient. Éviter de faire une utilisation abusive, je dirais, peut-être de tout ce qui est divertissement, mais savoir à quel moment utiliser le numérique pour s'instruire, pour apprendre et savoir à quel moment est-ce que je me détends un tout petit peu en allant par exemple écouter de la musique ou autre. Et c'est un peu ça le challenge quand on est jeune, on se laisse un peu emporter, mais réellement on peut dire que le numérique participe très très fortement à maintenir les filles en ce sens qu'elle leur permet d'apprendre beaucoup de choses.
Je l'annonçais dans les titres, le sommet Afrique-France a pris fin vendredi à Montpellier, dans le sud de la France. Notre envoyé spécial a recueilli les réactions des participants nigériens à ce sommet entre les ateliers et les prises de parole officielles. Abdoumani Aboubakar, étudiant à l'université Abdoumouni de Niamey, Amadou Ange, entrepreneur, et Halidou Maman, directeur du musée national Boubou Hama de Niamey, ils s'expriment au micro de Talata Abdoubahar.
Vraiment, c'est que cette jeunesse-là prenne conscience de l'importance de connaître d'abord son patrimoine. Connaître son patrimoine, c'est connaître aujourd'hui l'identité culturelle même de son pays. Parce qu'un pays sans identité culturelle, et aujourd'hui, c'est comme si la personne se lève le matin et il sort tout nu.
Ça ne va pas changer tout de suite. Donc, il y a du travail à faire du côté africain et du côté français. Il y a un vrai travail à faire sur les mentalités, sur la façon de voir les choses. Il faudrait que nous, en Afrique, que nous sortons de notre assistanat. Il faut qu'on sorte de cela. Ici, en France, il faut qu'ils sortent aussi de leur façon de voir l'Afrique en ne voyant que le côté aider, assister.
L'un de l'autre, c'est vrai, il faut se le dire, cette question des biens culturels, ça appartient d'abord au pays de dire dans quelles conditions les objets sont sortis. Quand vous prenez l'exemple du Niger, jusqu'à présent, il faut qu'il y ait une réaction de l'État du Niger pour dire dans quel musée vous avez des objets et quels sont les objets pour lesquels vous voulez restitution ou retour.
L'élaboration d'un plan d'action et la présentation du rapport d'auto-évaluation des parlementaires sur la sécurité est au centre d'une rencontre de 4 jours débutée aujourd'hui à Niamey. Elle est organisée par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, DECAF. Les échanges issus de cette rencontre permettront aux députés, acteurs de la sécurité et des chercheurs de mettre en lumière les obstacles à un contrôle effectif du secteur de la sécurité. Jolie Ruth Morand, représentante de DECAF, explique au micro de Mokhtar Hamadou.
En matière de gouvernance du secteur de la sécurité, il y a des acteurs clés, dont les parlementaires ou d'autres acteurs qui ont en charge du contrôle ou de la supervision du secteur de la sécurité. Donc les parlementaires jouent un rôle clé, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls sans que de l'autre côté, il y ait l'adhésion des forces de défense et de sécurité. Mais ce que nous voyons depuis que nous travaillons dans cette coopération, c'est que d'une part, les forces de défense et de sécurité se sont appropriées ces questions de gouvernance et surtout, si on regarde les questions sécuritaires dans la sous-région, les réponses militaires ou sécuritaires ne suffisent plus. Il faut de plus en plus rentrer dans le vif du sujet sur ces questions de bonne gouvernance. Et ils sont les premiers concernés pour effectivement redorer leur image. Ensuite, renforcer cette confiance entre les FDS et la population. Donc si on ne touche pas sur ces questions de gouvernance de ce secteur, les armes toutes seules ne suffiront pas pour arriver à vaincre l'insécurité.
Hors de nos frontières, début ce matin à Ouagadougou, du procès sur la mort de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD se réjouit de ce procès 34 ans après, qui selon lui est un moment historique. Seydou Abdoulaye, le président de REPAD, est au micro d'Assoumana China.
Ce procès a des limites, c'est surtout en ce qui concerne le volet national que le procès va s'axer. Le juge d'instruction a demandé à ce que soit levé le secret défense sur certains dossiers, mais malheureusement, il n'a pas pu avoir accès à certains dossiers. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est un moment historique dont il faut se réjouir, qui interpelle également les gens qui sont dans les complots, qui sont au pouvoir ou de l'autre côté, qui estime que le règlement de conflits politiques doit se faire de manière violente et qu'ils peuvent maintenir l'injustice par le pouvoir à leurs mains. Nous espérons que cela n'empêche pas la lumière de se faire. D'autres acteurs burkinabés, en tout cas, on espère qu'ils vont témoigner et qu'ils vont dire quand même la vérité, ce qui s'est passé le 15 octobre et pourquoi il y avait eu le 15 octobre.
Célébration dimanche de la 19e journée mondiale contre la peine de mort avec pour thème les femmes et la peine de mort, une réalité invisible. Au Niger, les organisations abolitionnistes continuent de demander l'abolition de la peine de mort. Le président de la coalition nigérienne contre la peine de mort et du mouvement abolitionniste, Garba Alou Al-Mokhtar, indique que le plaidoyer continue à tous les niveaux pour l'abolition de la peine de mort. Il est au micro de Michel Didji.
Depuis 2010, nous faisons le plaidoyer et la sensibilisation sur l'abolition de la peine de mort. Quand nous disons peine de mort, c'est pour juste respecter la constitution de la République du Niger qui dispose dans son article 11 que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la protéger. Nous avons aussi l'article 12 qui dispose encore que chacun a droit à la vie. Et c'est ça que nous sommes en train de partager avec l'opinion publique. Une contradiction dans les faits. Le code pénal maintient encore plusieurs chapelets d'infractions qui entraînent vers la condamnation à mort. Donc nous nous sommes dit alors, est-ce qu'il faut respecter la Constitution, c'est ça la normale, ou bien continuer à suivre un code pénal où le magistrat ne peut rien faire, il est obligé de condamner parce qu'il a ses dispositions de la loi. Le Niger a pris un décret depuis 2016 qui commet toutes les condamnations à mort à des condamnations à vie. Mais malheureusement, il y a un mais. Actuellement, le Niger compte 5 condamnés à mort, donc malheureusement pour la première fois, une femme âgée de 30 ans.
Dans le même cadre, pour l'abolition de la peine de mort au Niger, le réseau Progrès et Développement Humanitaire a organisé le vendredi des activités récréatives pour les populations carcérales de la maison d'arrêt de Niamey. À cette occasion, capitaine Fouta Abdourahman, régisseur de la maison d'arrêt, parle des cas de peine de mort au Niger. Il est au micro d'Olivier Assokbavi.
Ce travail que nous faisons, c'est un travail d'ensemble au niveau de la maison d'arrêt de Niamey. Le régisseur seul ne peut rien faire sans la contribution du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, à travers le commandant de la garde nationale du Niger. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. La dernière exécution date du 21 avril 1976. Par contre, au Niger, même si la peine de mort est prononcée, en tout cas elle n'est pas exécutée ou elle n'est pas exécutoire. Dans tous les cas, le président de la République, chaque année, sur proposition du ministère de la Justice, signe des décrets de remise gracieuse où ceux-là qui sont condamnés à mort peuvent bénéficier d'une commutation de leur peine. Donc vous avez des détenus qui sont condamnés à la mort, qui voient leur peine commuée à la condamnation à vie.
Autre aspect de cette édition, le personnel administratif de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a organisé hier une cérémonie d'au revoir pour rendre hommage aux commissaires sortants de la dite institution. Ces commissaires sortants ont salué l'initiative et en retour, ils ont demandé au personnel administratif d'avoir, je cite, le même engagement avec la nouvelle équipe qui arrive, fin de citation. Les membres ont prêté serment devant le Parlement samedi. Le rapporteur général sortant de la CNDH, Dr Talibi Hamidou Moussa, au micro de Michel Djéji.
Nous avons travaillé comme dans une famille où, au-delà des règles de gestion, des règles administratives, nous avons créé une ambiance de travail, un climat social qui nous a permis d'arriver aux résultats que tout le monde connaît. Nous sommes fiers de cette administration qui nous a accompagnés durant ces deux mandats. Il y en a qui ont fait 8 ans, d'autres qui ont fait 4 ans. Donc pour les deux mandats, elle nous a accompagnés dans toutes les tâches, dans toutes les activités. Et en retour, nous leur avons souhaité bonne chance avec la nouvelle équipe. Nous leur avons demandé d'avoir le même type d'engagement qu'ils ont eu avec nous. Puisqu'il s'agit de travailler pour notre pays, il s'agit de travailler pour la promotion et la protection des droits humains. Donc nous avons demandé à ce qu'ils accompagnent la nouvelle équipe qui arrive pour qu'elle puisse faire plus que ce que nous avons eu à faire.
En sport, dans le cadre de la Coupe du monde de football Qatar 2022, le MENA du Niger a joué vendredi passé à Blida son match aller contre les Fenech d'Algérie. Score 6-1 en faveur des Algériens. Le match retour est prévu demain à 16h au stade Général Seyni Kounché de Niamey. Comment aborder ce match retour? Quelques supporters nigériens du MENA donnent leur avis au micro de Salamatou Kadri.
On ne peut pas commencer par le résultat. Il faut travailler en amont pour arriver là. Je suis désolé, j'entends beaucoup de gens dire qu'on va gagner, on va gagner. Mais objectivement, aujourd'hui, entre l'Algérie et nous, sur le plan du football, il y a un écart abyssal. Nous sommes des Nigériens, nous sommes fiers de l'être. Notre souhait est que nous puissions gagner. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, objectivement, on peut s'attendre à battre l'Algérie?
Essayer de jouer avec les jeunes, carter les vieux, faire un projet de 10 ans pour que dans 10 ans on puisse avoir une équipe nationale compétitive. On va jouer avec l'Algérie qui est la première nation africaine, classement FIFA, le Niger et Kélien. Ça c'est un. De deux aussi, lorsqu'on va venir jouer chez nous, il y a la pression des supporters, on les a déjà gagnés 6-1, ils vont essayer de dire, essayer de limiter la casse seulement. C'est ce que nous on veut. Pour se qualifier au mondial, c'est pas un projet d'abord, mais on veut une équipe qui peut aller à la CAN.
À présent, la partie magazine de cette édition, la succession, selon les dispositions de la loi nigérienne, peut prendre plusieurs formes. Ainsi, par exemple, le mandat peut prendre des formes, notamment le mandat à effet posthume, le mandat conventionnel qui nécessite un acte notarié et le mandat sous forme de décision de justice. La magistrate Goje Maimouna Gazibo, présidente de l'association chronique juridique, donne plus de détails au micro de Balkissa Hamidou.
Aujourd'hui, nous allons parler du mandataire successoral. Mais avant, qu'est-ce qu'un mandat?
Le mandat est un contrat juridique qu'on appelle plus communément contrat de procuration, lequel donne pouvoir à une personne, le mandataire, de faire quelque chose en son nom.
Qu'est-ce qu'on entend par mandataire successoral?
Le mandataire successoral est une personne physique ou morale qui est chargée d'administrer et de gérer provisoirement tout ou partie de la succession d'une personne pour le compte et de l'intérêt d'un ou plusieurs de ses héritiers.
Qui est compétent pour désigner un mandataire successoral?
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime et sérieux au regard d'un ou plusieurs héritiers ou du patrimoine successoral peut désigner un mandataire successoral par le biais d'un mandat à effet posthume. Les héritiers peuvent d'un commun accord décider par le biais d'une convention de confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. On parle de mandat conventionnel. Le mandat prenant la forme d'une convention entre héritiers. Le juge peut, en cas d'inertie, carence ou faute d'un ou de plusieurs héritiers de l'administration de la succession suite à une mésentente, opposer position d'intérêt ou complexité de la situation désigner un mandataire successoral. On parle alors de mandataire judiciaire.
Quelle est la mission du mandataire successoral et quels sont les types de mandats?
D'abord, le mandat à effet posthume, il est différent du mandat successoral puisque ce dernier n'émane pas directement d'une volonté du défunt. Si la situation l'exige, les héritiers peuvent se mettre d'accord pour désigner l'un d'entre eux ou un tiers comme mandataire du patrimoine successoral. Autrement dit, les héritiers ont par ce biais la faculté de désigner un gérant librement choisi par leurs soins. Concrètement, cette forme de mandat est utile lorsqu'un héritier réside à l'étranger et n'a pas les moyens matériels de s'occuper des actes d'administration. Ce dispositif concerne également les héritiers qui ne disposent pas de temps ou de compétences nécessaires pour gérer personnellement le patrimoine issu de la succession. Le mandataire judiciaire consiste en la nomination d'un mandataire désigné par le juge suite à une mésentente, carence ou faute d'administration des héritiers.
Au rythme du Niger. C'est la fin de cette édition en français. Merci de l'avoir suivi. Le mariage des enfants à Zender, ampleur et mesures préventives est le thème du forum de ce soir à 18h15, présenté par Moustapha Mamassani. Tout de suite, le journal en tamashek, présenté par Alamine Ouachar. Au revoir.